Cinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Bazerico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cinésique sur Facebook ou Twitter. Ce programme est consacré au jazz au cinéma.
Assez répété pour aujourd'hui. Hélène, musique, champagne pour tout le monde, pour s'amuser un peu.
Panorama, BO, 20 musiques de films jazz. Première partie, le cinéma américain et britannique. Il y aura une seconde partie que je vous invite à écouter sur notre plateforme. Une seconde partie dédiée donc à la scène française. Notre sélection de 20 BO conçus avec des trompettes, saxophones, piano ou même guitare par des compositeurs de jazz ou alors par des musiciens de films, des caméléons du cinéma. BO constitué donc dans sa majeure partie de musique originale, instrumentale, dans le registre du jazz. Alors on commence chronologiquement, historiquement par le début, c'est-à-dire en 1951, un tramway nommé Désir. Alex North fait la rencontre de Elia Kazan avant de le retrouver une dernière fois un an plus tard sur Viva Zapata et ajoute à son orchestre une formation de cuivre pour prolonger le lieu du récit, la Nouvelle-Orléans, et faire de cette adaptation de Tennessee Williams le premier film hollywoodien avec une musique jazz. On pourra aussi entendre Alex North en jazz dans Les Désaxés de John Huston en 1961. Mais là donc, il s'agit d'un tramway nommé Désir.
Thank you.
Le jazz dans toute son ampleur, avec à l'instant une partition d'Elmer Bernstein pour l'homme au bras d'or, qui, après un tramway nommé Désir, continue dans la voie de l'avènement du jazz à Hollywood. L'homme au bras d'or avec Frank Sinatra et Kim Novak. Elmer Bernstein donc introduit également le jazz au cinéma, avec le jazz comme élément dramatique. Ce n'est plus comme dans un tramway nommé Désir, le décor de la Nouvelle-Orléans. Ici, le jazz fait partie du récit, fait partie de la narration, fait partie des émotions. Le film s'ouvre par un générique réalisé par Saul Bass où se dessinent des lignes blanches en écho au sujet du film, la dépendance à la drogue. Les percussions qui ouvrent la partition immergent le spectateur dans ce caractère désaxé du personnage, Frank Sinatra, donc qui est à la fois percussionniste dans le film et junkie. Les percussions correspondent ainsi à l'instrument du personnage mais aussi à son caractère donc de drogué. Les cuivres poursuivent cette scansion, des solistes renommés sont invités pour l'interprétation de la partition. Elmer Bernstein, donc, qu'on pourra découvrir plus tard en 1956 dans Les Dix Commandements, notamment de Cecil B. DeMille, un péplum, ou plus tard dans Les Sept Mercenaires de John Sturges en 60, ou pour le même John Sturges en 63, La Grande Évasion. Et donc, ce compositeur Elmer Bernstein se fera donc connaître comme un véritable compositeur de films qui pourra également pratiquer l'orchestre. Et donc là, c'est intéressant qu'un compositeur de musique de film, de musique orchestrale aussi par ailleurs, se confronte au jazz pour les besoins du film, pour les besoins de ce personnage de junkie et de ce personnage de percussionniste, Elmer Bernstein, donc pour l'homme au bras d'or en 55. Mais restons avec Otto Preminger, 4 ans plus tard, en 59, avec Autopsie d'un meurtre, avec James Stewart, cette fois-ci, donc, et au pupitre, non plus un compositeur de film, mais un compositeur issu du jazz, Duke Ellington. Après avoir donc intégré le jazz à Hollywood avec Elmer Bernstein, sur ce film-là, Otto Preminger fait appel directement à un pianiste de jazz, Duke Ellington, avec ce film de procès, avec des longues scènes de procès, et ce jazz donc qui rythme ses joutes verbales. Thank you. On retrouve les cuivres et les percussions du jazz avec La soif du mal, Touch of Evil en 1958. On est vraiment dans les années du jazz, dans le cinéma français, on le verra dans le prochain podcast, et américain, 1958 donc, et il s'agit d'Henri Mancini. Un film avec Charlton Heston, Janet Leigh et Orson Welles. Unique collaboration entre le cinéaste Orson Welles et le compositeur de Black Edwards, Henri Mancini. Il fera la rencontre de ce réalisateur 2 ans plus tard sur Une seconde jeunesse. Et évidemment, on connaît tous les partitions d'Henri Mancini pour Black Edwards, notamment Diamant sur canapé ou La panthère rose, qui auraient pu figurer dans ce panorama du jazz au cinéma, évidemment. Mais on se contente d'un titre par compositeur pour justement varier les univers. On retrouve donc dans La soif du mal ce qui caractérise le style Henri Mancini, les percussions, les cuivres et un aspect plutôt burlesque, dansant dans le film, ce qui apporte un contraste à l'univers sombre de ce polar lugubre. Henri Mancini retrouve d'ailleurs le film noir, ce n'est pas la première fois, il le retrouve après Fille dans la nuit de Jack Arnold en 1953 et L'emprise de la peur de Harry Keller en 1957. Et donc le compositeur propose ainsi une partition de jazz essentiellement percussive, il y a même certains morceaux qui ne sont que avec des percussions, notamment sur un rythme mambo qui représente la zone frontalière où se situe l'action entre les États-Unis et le Mexique. Un ton presque humoristique, comme je le disais, qui élabore un contrepoint à la violence de cette enquête policière. La musique semble d'ailleurs environner les personnages. Très souvent, on a l'impression que la musique provient de jukebox, d'autoradio, de haut-parleurs, qui, tout en instaurant un contraste à la violence, permet aussi d'accentuer le réalisme. La violence survient dans un univers réaliste où la musique est dans l'environnement des actions et des personnages. Donc ça, c'est vraiment un cas atypique d'utilisation du jazz au cinéma qui provient presque du décor. Voilà pour Henri Mancini, La soif du mal. Autre jazz au cinéma, l'année d'après, 59, il s'agit de Certains Lemshow, musique d'Adolph Deutsch, et là, on est donc dans la comédie à l'américaine avec évidemment le réalisateur, un des maîtres de la comédie hollywoodienne, Billy Wilder. On est avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, un jazz à la fois swingant, on retrouve des mambos et également des chansons mythiques évidemment, donc certaines chansons interprétées par la sensuelle Marilyn Monroe comme I Wanna Be Loved By You. Avec nous, on retrouve Thibaut Vic. Thibaut, bonjour.
Bonjour Benoît. En fait, tout est vraiment lié au film et à cette ambiance opulente et cosy. C'est-à-dire le jazz vient apporter sa touche au récit, mais de façon interne, puisque les deux personnages qui se déguisent en femmes puis en hommes sont des musiciens de jazz et vont se cacher auprès de Marilyn Monroe. Donc il y a bien sûr les morceaux de jazz qui sont intégrés intradiégétiques. Et puis, il y a ce jazz à l'extérieur qui est toujours de façon très agréable, qui est là pour donner l'action. Et on se love dedans avec des trompettes qui se balancent, des saxophones, le rythme d'un tango aussi. Donc, c'est vraiment une musique où on se prélasse, où on danse et où on se sent vraiment très bien.
Eh bien, détendez-vous avec Certains Lemshow. Thank you. Shadows de John Cassavetes. C'est le contrebassiste, compositeur et pianiste de jazz américain Charles Mingus qui improvise face aux images du premier film de John Cassavetes avec cette même pulsation libérée, cette même langueur décomplexée. Très souvent, donc, le jazz est synonyme de liberté, de spontanéité et d'improvisation. Et synonyme aussi donc de sérénité et de sensualité. Mais aussi, le jazz peut être synonyme de tourment, de violence, de schizophrénie. C'est le cas dans Le Voyeur, Peeping Tom en VO, de Michael Powell en 1960 avec la musique de Brian Isdale. Le cinéaste anglais Michael Powell retrouve le compositeur Isdale pour son premier film en solo. Après des films en duo avec Emmerich Pressburger, on a pu entendre Brian Isdale dans Le Narcisse Noir ou encore Les Chaussons Rouges, une comédie musicale. Et donc là, avec un piano martelé aux motifs répétés, soutenant dans le style d'un jazz obsessionnel les pulsions de meurtre de ce film d'épouvante qu'est Le Voyeur. Thank you. Mikewan. Mikewan, c'est un drame judiciaire de Arthur Penn avec Warren Beatty et à la musique, le trompettiste de jazz Eddie Sauter, qui signe donc cette musique de ce film noir très lugubre, et on entend dans la musique à la fois la chaleur du cuivre de la trompette, mais en même temps le côté noir, donc lugubre, torturé dans la partition. Alors certains compositeurs majeurs du cinéma ont très souvent rimé avec le jazz. C'est le cas de l'anglais John Barry, qui donc a signé beaucoup de partitions de jazz et qui a pu notamment danser James Bond, dans Goldfinger notamment, y insuffler avec l'orchestre du jazz. John Barry, on a pu aussi l'entendre dans le jazz avec The Cotton Club de Francis Ford Coppola en 84, puisque le film se situe dans un club de jazz. Alors là, j'ai choisi de vous diffuser en 1965, il s'agit de The Hip Cress File, avec donc un thème jazz, avec Michael Caine, c'est le réalisateur Sidney G. Furie qui a réalisé le film et c'est leur unique collaboration. Le compositeur retrouve le film d'espionnage d'ailleurs, juste après les premiers James Bond. Il avait fait en 63 From Russia with Love et Goldfinger en 64, avec une partition ironique laissant entendre le thème principal du film dans une instrumentation très jazz, dans un style très enjoué, marquant la dilettante de l'espion Michael Caine dans The Hip Cress File. Casino Royale à l'instant. Un pastiche de James Bond avec Peter Sellers, 3 ans après La Panthère Rose, qui était déjà avec un thème jazzy, signé Henry Mancini. Ici, Casino Royale, il s'agit d'une partition de Burt Bacharach avec une humeur burlesque que l'on entend et le style pop caractéristique de Bacharach en 66. Alors on change d'humeur et on retrouve le film noir avec Dans la chaleur de la nuit, In the Heat of the Night en 67 avec la partition de Quincy Jones, le trompettiste qui fait partie des grands jazzman à avoir fait une grande carrière au cinéma avec de nombreuses musiques de films. Il s'agit du film noir de Norman Jewison avant que ce dernier fasse appel au français Michel Legrand pour l'affaire Thomas Crown. Alors le trompettiste Quincy Jones, donc, il a aussi pu signer d'autres partitions de jazz, notamment pour Sidney Lumet, Le prêteur sur gage, The Pawnbroker en 64, The Slender Thread, 30 minutes de sursis de Sidney Pollack, ou encore In Cold Blood, de sang froid en 67. Et là donc il s'agit de Dans la chaleur de la nuit, Quincy Jones. Blow Up avec la partition de jazz signée Herbie Hancock, pianiste claviériste de jazz, donc, qui signe sa première BO pour le film anglais du réalisateur italien Michelangelo Antonioni avec David Hemmings dans le rôle du photographe. Et puis on y aperçoit Jane Birkin dans le film Blow Up. Donc. Alors, autre compositeur de cinéma à être réputé dans le jazz, il s'agit de Lalo Schifrin en 68 avec Bullitt. Et Lalo Schifrin a inauguré avec avec ce film l'association du jazz avec des courses de poursuite en voiture. Il a coloré comme ça de manière originale à l'époque, et puis c'est devenu depuis une espèce de couleur éculée, le jazz, les percussions avec les courses de poursuite en voiture. On pourra aussi l'entendre dans French Connection. Alors là, donc, c'est Bullitt en 68 avec Steve McQueen et Jacqueline Bisset. Alors là, Lochifrine annonce avec ce film de voiture de Peter West le style jazz de certaines des partitions qu'il a pu faire dans les années 70, notamment la série des Dirty Harry qui débuta dans les années 71. Un style donc bien à lui, groovy, avec guitare basse, percussion, saxophone, cuivre, flûte pour l'action et quelques notes de cordes dissonantes pour le suspense. Bullitt. L'affaire Thomas Crown à l'instant, 1969. Alors on retrouve Norman Jewison que l'on a pu entendre tout à l'heure avec Dans la chaleur de la nuit et la musique de Quincy Jones. Alors là il s'agit de Michel Legrand. Aux États-Unis a été recommandé à Norman Jewison par son ami Quincy Jones. C'est un an après Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Il embarque aux États-Unis pour cette romance policière avec Steve McQueen et Faye Dunaway. On retrouve d'ailleurs Steve McQueen après le Bullitt, juste avant avec la musique de Lochifrine. Alors, Steve McQueen et les courses-poursuites en voiture, c'est aussi Steve McQueen et les romances, hein, puisque histoire d'amour entre Steve McQueen et Faye Dunaway. Qui dit romance dit musique romantique, et Michel Legrand, très souvent, a été associé à des musiques romantiques. et notamment dans ce film avec la chanson Les Moulins de mon cœur qui a valu à Michel Legrand un Oscar. Mais j'ai choisi plutôt de vous diffuser un extrait qui tranche avec le romantisme du film, avec une partition comme ça très libre, avec des scansions, donc percussions, et puis des cuivres comme ça qui s'emballent. Une partition très insolite hein, de Michel Legrand que l'on vient d'entendre. On continue avec le film noir d'espionnage de Coppola avec Conversation secrète en 1974 avec Gene Hackman et une musique de David Shire. Après le succès du Parrain, qu'il considérait comme une commande commerciale, Coppola, âgé seulement de 35 ans, décide de réaliser ce film plus intime et fait alors appel à David Shire, 2 ans son aîné, et seulement 2 ans d'expérience de cinéma derrière lui. Alors que le compositeur souhaitait au départ écrire une partition d'espionnage pour orchestre, le réalisateur exigea cependant une musique pour un seul instrument, le piano en l'occurrence, afin d'illustrer la solitude du personnage de Gene Hackman. Donc il y a un air épuré, Shire accompagne avec ce thème la simplicité du projet, le dénuement du protagoniste, mélancolique, teinté de jazz, cette partition est troublante. Après le piano mélancolique de Conversation secrète par David Shire, on retrouve l'acteur John Hackman avec ce French Connection, l'épisode numéro 2, réalisé par John Frankenheimer, et la musique de Don Ellis, le trompettiste américain Don Ellis, donc, qui écrit cette partition. Big Chase, le morceau que l'on vient d'entendre, illustre une des poursuites du film, et donc après Bullitt et la Lochifrine, on peut entendre une autre version de comment illustrer en jazz une poursuite en voiture. Ça peut donner lieu à diverses variations, comme ça, le The French Connection numéro 2, donc par Don Ellis en 75. Panorama BO, première partie, le jazz américain et anglais. Et il y a autant des compositeurs associés au jazz, on a pu l'entendre, mais il y a aussi associés au jazz, évidemment, des réalisateurs, et notamment le réalisateur Woody Allen. Woody Allen, donc, est lui-même clarinettiste, d'ailleurs, et a très souvent, donc, convoqué des morceaux préexistants de jazz dans ses films. Clarinettiste amoureux de jazz, et il a aussi, donc, travaillé avec des compositeurs de jazz pour certains de ses films, ses rares collaborations avec des compositeurs. Il a notamment travaillé avec Marvin Hamlisch pour Bananas. Il a travaillé également avec Marvin Hamlisch sur Accords et désaccords, un faux biopic d'un faux Django Reinhardt. Et puis donc il a aussi collaboré avec Dick Hyman sur différents films, et notamment La Rose pourpre du Caire en 85 avec Mia Farrow et Jeff Daniels. Pianiste de jazz américain, Dick Hyman retrouve Woody Allen avec La Rose pourpre du Caire après Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe en 72, Zelig en 83, Broadway Danny Rose en 84, et notamment la chanson On Day at a Time dans Broadway Danny Rose. Et donc là, La Rose pourpre du Caire, musique de Dick Hyman.
Cinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Bazerico. We'll be right back.
nous sommes bien dans le registre du jazz. Il s'agit de Twin Peaks, la série, en 92, avec cette partition de Angelo Badalamenti, série culte de David Lynch, qui retrouve son compositeur Badalamenti après Blue Velvet, notamment, et qui signe là le thème de Laura Palmer et d'autres titres dans le film entre la comédie et le thriller. Hein, Badalamenti joue sur un double registre, accentuant le caractère morbide du crime par d'étranges ambiances, tout en soulignant l'inconscience du personnage d'adolescente dans son université par ses sonorités jazzy. Dans le registre politique, maintenant, Malcolm X avec un réalisateur Spike Lee qui travaille sur tous ses films avec le trompettiste de jazz Terence Blanchard. Il s'agit donc d'une biographie du leader nationaliste noir controversé Nelson Mandela, dans lequel il apparaît d'ailleurs, et on y voit aussi Denzel Washington. Spike Lee, Terence Blanchard, donc sur cette épopée biographique. Il se retrouve après notamment Do the Right Thing en 89 et Mo Better Blues en 90 ou encore Jungle Fever en 91. On a pu le découvrir notamment dans Black Hands Man récemment ou encore sur Netflix actuellement avec Da Bloods, partition que je trouve particulièrement réussie. Alors Terence Blanchard en 92 avec ce Malcolm X dans le registre du jazz donc. Thank you. Eh bien, c'est viscéral, c'est énergique, c'est percussif. C'était Whiplash avec le compositeur Justin Hurwitz pour le réalisateur de La La Land, Damien Chazelle. C'est surtout le réalisateur finalement qui est amoureux de jazz, hein, puisque dans chacun de ses films, il y a un peu de jazz, et notamment sa série The Eddie, actuellement sur Netflix. Donc là, il s'agit de Whiplash, hein, et déjà donc le jazz de Justin Hurwitz. Thibaut Vic, vous avez apprécié cette partition?
Oui, ben, j'ai beaucoup aimé la... cette énergie qui se déployait, mais c'est une énergie complexe parce que c'est une énergie obsessionnelle puisque c'est une course à la perfection. C'est vraiment ce travail et cette solitude face à l'instrument et c'est les baguettes qui décident un peu du sort de ce personnage d'Andrew. Ce qui est intéressant, c'est la nudité de l'instrumentation. Dans le sens où même s'il y a quelque chose de très puissant, on reste sur très peu d'instruments et on a voilà cette batterie qui prend de l'ampleur et qui donne un peu le cours du récit. Et puis parfois des soupçons lointains de solo ou des sons qui arrivent directement comme si c'était des acouphènes. Donc il y a vraiment cet habillage permanent et cette complémentarité entre cette batterie viscérale, organique qui représente le personnage et le monde autour, comment le monde peut l'accaparer et comment cette relation aussi avec ce professeur peut lui faire du mal et le ronger de l'intérieur.
Et oui, et puis cette percussion est vraiment liée à la relation trouble, hein, entre le batteur et son professeur. Le jazz est vécu comme une compétition dans ce film, comme une performance. Whiplash ou Justin Hurwitz, ainsi se termine notre podcast Panorama du jazz pour les compositeurs américains.
Et maintenant, le clou de notre spectacle.
Et pour totalement terminer ce panorama, un morceau bonus, c'était donc en 2019, Green Book, premier film de Peter Farrelly en solo, hein, puisqu'il avait réalisé des comédies que l'on connaît avec son frère Bobby. Le personnage est pianiste et c'est Chris Bowers, le pianiste, qui va interpréter et composer la musique dans le style du jazz, avec un thème savoureux sur lequel on se quitte. Merci Thibaut, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez donc tous nos podcasts sur les plateformes. Et je rappelle qu'il s'agit là du premier chapitre de notre panorama du jazz au cinéma. C'était donc l'Amérique. Et le prochain panorama du jazz sera sur les Français. Au revoir.